Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 9, les versets 1 à 17. Genèse chapitre 9, versets 1 à 17. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Foisonnez et multipliez et remplissez la terre, et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur la terre et tous les poissons de la mer vous craignent et vous redoutent. Ils sont mis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie sera pour vous viande. Je vous ai donné toutes ces choses comme l'herbe verte. Toutefois, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Et certes, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, et je le redemanderai de la main de toutes les bêtes et de la main de l'homme, même de la main de chacun de ses frères, je redemanderai l'âme de l'homme. Celui qui aura répandu le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc, foisonnez, multipliez, croissez en toute abondance sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils qui étaient avec lui en disant, « Et quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre race après vous, et avec tout animal vivant qui est avec vous, tant des oiseaux que du bétail, et de toutes les bêtes de la terre qui sont avec vous, de toutes celles qui sont sorties de l'arche jusqu'à toutes les bêtes de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Puis Dieu dit, « C'est ici le signe que je donne de l'alliance entre vous, entre moi et vous, et entre toute créature vivante qui est avec vous pour durer à toujours. Je mettrai mon arc en la nuée, et il sera pour signe de l'alliance entre moi et la terre, et quand il arrivera que j'aurai couvert la terre de nuées, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, entre tout animal qui vit en quelque chair que ce soit, et les eaux ne feront plus de déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai afin qu'il me souvienne de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout animal vivant, en quelque chair qui soit sur la terre. Dieu dit donc à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Alors, on va demander à Dieu de bénir notre leçon, notre sermon. Seigneur, on est assemblés en ton nom ce matin, et nous faisons avec une grande joie ce que tu as voulu que l'on fasse lors d'un culte, soit l'étude de ta parole. Et Seigneur, on te prie de nous éclairer. Il n'y a que toi qui es capable de le faire avec ton esprit. On veut te demander pardon pour tous nos péchés que l'on a pu faire depuis la dernière fois que nous sommes venus te demander ton pardon. Et Seigneur, afin que notre âme soit blanche comme neige devant toi, Seigneur, et que nous recevions tes grâces avec reconnaissance, mais surtout, Seigneur, en les mettant en pratique, il y a une multitude de principes que tu nous enseignes dans les Saintes Écritures, et on a besoin de mettre toutes ces choses en pratique dans nos vies. Et nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous par ton esprit ce matin, et de nous bénir très abondamment. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai préparé la leçon 1 à 17 en croyant que peut-être que je pourrais le donner en une semaine, mais je ne suis pas sûr, parce qu'en le développant, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de matériel. Alors, je me suis dit, je ne me casse pas la tête avec ça. Je vais le donner au rythme que ça va sortir. Et si on a besoin d'une deuxième partie, on fera une deuxième partie, ce n'est pas plus grave qu'il faut. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « L'alliance divine avec Noé ». Et j'ai vu à l'intérieur, je suis très traditionnel parce que souvent dans les sermons, l'éternel trois points, il y a trois points. Et je crois qu'ils sont véritablement là si on regarde avec un petit peu d'attention. Alors, l'alliance divine avec Noé, préfacée dans le verset 1 à 7, c'est comme si Dieu, avant de donner son alliance à Noé, avait voulu comme donner sa préface à lui, c'est sa manière de dire certaines choses avant que l'alliance soit établie comme telle. Là, les versets 8 à 11, c'est l'alliance divine avec Noé précisée. Donc, les versets 8 à 11, le Seigneur va vraiment dire en quoi consiste son alliance entre lui, Noé et sa famille. Et la troisième idée, c'est l'alliance divine avec Noé préservée, dans le sens que Dieu va vouloir faire savoir à son serviteur que cette alliance-là, ce n'est pas une alliance qui va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça va durer très longtemps, jusqu'à l'arrivée du Messie et jusqu'à ce que le Messie ait fait son travail de rassembler les âmes des élus de toute époque jusqu'à son retour. Alors, c'est un énorme intervalle de temps. Donc, à partir du moment qu'ils ont sorti de l'arche, aller jusqu'au moment du retour de Christ. Alors, quand il fait son alliance et qu'il dit qu'il n'y aura rien, alors c'est une alliance qui veut donner à Noé la certitude qu'il va y avoir un intervalle de temps assez grand pour, d'abord, que le Messie vienne, et deuxièmement, après que le Messie va être venu, qui ramasse les élus, il l'avait fait avant qu'ils viennent aussi, mais il va le faire, donc, les élus avant et après sa venue. Alors, c'est vraiment pour donner un cadre temporel. On va voir qu'un des buts, dans le déroulement de la leçon, on va voir qu'un des buts pour lequel le Seigneur donne l'alliance à Noé, c'est pour garantir qu'il va y avoir un temps suffisamment grand pour la réalisation de tout cela. Donc, la venue de Christ, et on va voir l'alliance, c'est un concept extrêmement intelligent, c'est sûrement, parce que c'est un concept divin. C'est le concept unificateur de la Bible. Alors, on prévoit, peut-être à l'automne, un peu tard à l'automne, on devrait donner une série de leçons sur l'alliance, mais vraiment en détail. Là, on va regarder la première alliance, mais c'est-à-dire pas la première, mais on va regarder un petit peu un aspect de tout cela dans la leçon d'aujourd'hui. Alors, la théologie de l'alliance, un jour on parlait avec Rénal, puis il disait qu'il avait entendu Pascal Deneau dire que la théologie de l'alliance est un concept unificateur. C'est le grand principe qui fait en sorte qu'on est capable de comprendre la Bible à partir du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. C'est un principe unificateur. Ça nous aide à comprendre comment tout ça s'est développé. Et c'est effectivement très vrai. Donc, c'est un concept unificateur. Et c'est vraiment la vision de Dieu et de la rédemption qui va s'interpréter par le moyen des alliances. Alors, quand on va voir les leçons sur l'alliance, on va voir comment tout cela a commencé et comment ça s'est développé jusqu'à l'arrivée de Christ et ensuite comment ça va se continuer jusque dans l'éternité. Alors, quand on regarde un petit peu les manuels qui nous parlent, parce que puisqu'on parle d'une alliance, j'ai jugé nécessaire de commencer à nous faire voir le début de tout cela pour voir comment ça va se développer dans le temps. Alors, la théologie de l'Alliance, normalement, comprend trois divisions de base. La première, c'est l'Alliance de la rédemption. Autrement dit, le conseil trinitaire de Dieu dans l'éternité qui prenait les décisions concernant le salut des élus. Donc, c'est quelque chose qui se produisait au ciel entre les trois personnes de la Trinité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle en théologie l'Alliance de la rédemption. C'est les décisions divines qui avaient été prises de toute éternité concernant le salut. Et l'autre, c'est l'alliance des œuvres. L'alliance des œuvres, autrement dit, quand Adam est venu, Dieu l'a mis à l'épreuve et il se devait tout simplement de ne pas toucher à un arbre pour qu'il puisse continuer à vivre. Et la troisième, c'est vraiment l'alliance de la grâce. On va regarder très brièvement ce matin tout cela, parce que ce n'est pas le but de la leçon, mais c'est intéressant de voir, même au début, le déroulement de tout cela. Alors, on va les reprendre, les trois. L'alliance de la rédemption, ça réfère à l'entente faite au ciel avant la fondation du monde entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour sauver les pécheurs élus par grâce seulement. Alors, dans cet accord, le Fils a accepté de devenir homme, d'être notre représentant, d'obéir aux exigences de l'alliance des œuvres, à notre place, et de payer pour les péchés des élus. C'est la fondation de l'histoire de la rédemption. Alors, on pourrait aller voir des versets, mais dans Ésaïe 42, versets 5 à 7, on parle de ces alliances-là. L'alliance des œuvres, maintenant. L'alliance des œuvres, c'est l'accord légal entre Dieu et Adam et Ève dans le jardin d'Éden, en vertu duquel Adam et Ève ont part aux bénédictions de l'alliance sur la base de leur obéissance ou de leurs œuvres. Pour ça qu'on dit l'alliance des œuvres, parce que c'était l'alliance que Dieu prenait entre lui-même, Adam et Ève, et les bénédictions qui découlaient de cette alliance-là venaient du fait de leurs œuvres. Donc, leur échec, on sait qu'ils ont eu un échec monumental, la chute, et la chute d'Adam, comme représentant de l'humanité, ont amené la nécessité de la rédemption. Donc, s'ils avaient obéi, ils auraient continué, mais leur chute a amené la nécessité. Et là, maintenant, on arrive à l'alliance de la grâce. Je fais juste commencer à comprendre un peu comment tout cela s'articule. Parce que un des problèmes dans la chrétienté moderne, c'est qu'il y a deux grands systèmes actuellement qui expliquent la Bible. Il y a le système qu'on appelle dispensationaliste. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans ce matin parce que c'est vraiment un gros sujet. Et il y a le système aussi de l'alliance. Mais l'alliance, dans la compréhension chrétienne nord-américaine et je dirais même de toute la Terre, il y a vraiment deux conceptions très différentes, celle des baptistes et celle des presbytériens. Je ne veux pas rentrer non plus dans les détails de tout ça, mais... Si on vous parle de l'alliance de la grâce ce matin avec des explications très, 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 très brèves, c'est bien sûr avec la compréhension du milieu réformé baptiste et fort probablement de d'autres dans le monde. Alors, l'alliance de la grâce, c'est quoi? L'alliance de la grâce, c'est la révélation, la mise en œuvre et le déploiement progressif de l'alliance de la rédemption sur la terre. Comprend? Autrement dit, les décisions qui ont été prises dans le ciel, il a fallu qu'à un moment donné, ça commence à se dérouler, à s'exécuter sur la terre. Et la chose ici à remarquer, c'est la révélation. Donc, la révélation, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, que Dieu vient nous révéler, vient nous montrer. La révélation de quelque chose, quand on parle du livre de l'Apocalypse, on dit en anglais, c'est « the book of Revelation ». C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, on nous montre des aspects, beaucoup d'aspects sur la personne de Christ dans le livre de la révélation. Et quand on dit ici l'alliance de la grâce, c'est la révélation, la mise en œuvre. Autrement dit, le commencement de toutes les actions qui sont impliquées là-dedans. Et le mot clé, c'est pour comprendre, c'est le déploiement progressif de l'alliance de la rédemption sur terre. Autrement dit, ce qui a été décidé au ciel, il a fallu que ça se déploie. Tu sais, si vous prenez un papier et vous déployez, ça veut dire il y a des choses qui se sont faites de façon progressive. Le Seigneur n'a pas tout dit d'un coup. Ça s'est déroulé pour arriver à l'accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Donc, on reprend ça. L'alliance de la grâce, c'est la révélation, la mise en œuvre et le déploiement progressif de l'alliance de la rédemption sur la terre. Voyez-vous, l'alliance de la rédemption, c'était au ciel. L'alliance de la grâce, c'est sur la terre. Dans le temps et dans l'histoire. Parce qu'il y a eu, on va voir, qu'il y a plusieurs alliances. Il y a l'alliance de Noé, l'alliance d'Abraham, l'alliance mosaïque qu'on dit avec Moïse, avec David, et on va voir tout le déploiement de ça. Ça s'est fait historiquement, ça s'est fait graduellement, progressivement. Parce que plus on saisit l'ensemble de ces choses-là, plus on est à même de comprendre les Écritures de manière plus intelligente. Alors, l'Alliance de la grâce comprend une série d'alliances au pluriel, subordonnées, donc c'est des méthodes, et on va voir les différences. Quand on dit qu'il y en a plusieurs alliances subordonnées à l'Alliance de la grâce, quelles sont-elles? Celle d'Adam, l'Alliance des œuvres, et elle va trouver son apogée, l'Alliance de la grâce, avec la nouvelle alliance, et ça va culminer dans la gloire éternelle au ciel. Maintenant, on parle de différentes administrations de l'Alliance de grâce dans l'Ancien Testament. Alors, on va les regarder, les différentes façons, les différentes alliances. D'abord, il y a eu l'alliance adamique ou édénique. Donc, c'est la promesse initiale du salut. Où trouve-t-on ça? Genèse 3:15, exactement. Alors, l'alliance adamique ou édénique, c'est la promesse initiale du salut, Genèse 3:15. L'alliance avec Noé, on est rendu là. Mais de façon à voir l'ensemble, moi je calcule que c'est important de le faire parce que on va mieux apprécier. L'alliance avec Noé, c'est un cadre qui garantit la survie de l'humanité. Autrement dit, Dieu dit, je ne jugerai plus l'humanité comme je viens de le faire par les détruire leur vie au complet à cause de leurs péchés. Je ne le ferai plus jamais. C'est fini. Il est fait une fois, je ne recommencerai plus. Il dit, donc c'est un cadre garantissant la survie de l'humanité et par conséquent, l'arrivée future du Messie. Parce qu'on le sait, ça a pris du temps. Entre Noé et l'arrivée du Christ, ça a pris des siècles. Alors, il a fallu que le Seigneur garantisse que ce temps-là soit accordé par décision divine. Donc, après ça, il y en a eu un autre, parce que là, on est en train d'étudier la Genèse, ça donne bien, parce que les alliances, il y en a plusieurs dans la Genèse, et il va en avoir un autre quand on va arriver au chapitre 12, Abraham. Donc, Dieu dit qu'à un moment donné, il choisit une communauté. Il choisit un peuple par lequel, dans lequel va venir le Messie. Donc, l'alliance avec Abraham initie la communauté par laquelle arriverait le Messie, c'est-à-dire les Juifs. OK. Puis les promesses et les bénédictions faites à sa postérité. On avait parlé, quand le Seigneur a fait une promesse, une alliance avec Abraham, il a dit que les bénédictions viendraient à sa postérité. Et dans Galates 3:16, l'interprétation de sa postérité est définie par le Nouveau Testament. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Là. Le Nouveau Testament a préséance sur l'Ancien pour définir l'interprétation de l'Ancien. Donc, ça dit Galates 3:16, et la semence dont Dieu dit à Abraham, ta semence recevra des bénédictions et des promesses, c'est Christ lui-même. Donc, la semence... Les bénédictions qui seraient reçues, c'était par l'intermédiaire d'Abraham, de Christ. Et après ça, il y a une autre alliance. Alors, on voit le déploiement, les alliances multiples qu'on parlait tantôt. Mais tout ça sont toutes subordonnées à l'alliance de la grâce. Autrement dit, c'est un déploiement de celle-là de départ. Donc, l'alliance mosaïque ou... Souvent, un autre nom va être utilisé, c'est sinaïtique. Donc, c'est les lois que Dieu, les lois écrites détaillées, les commandements de Dieu, toutes les lois civiles et cérémoniales que Dieu a voulu donner à son peuple pour un certain temps afin de restreindre les péchés du peuple de Dieu et aussi leur servir de pédagogue, c'est ça que le Galate dit, leur servir de pédagogue jusqu'à la venue de Christ. Et il y a une autre alliance, l'alliance avec David, l'alliance davidique, donc c'est le règne de Dieu sur son peuple qui reçoit une manifestation concrète. La lignée royale du Rédempteur est ainsi désignée. Alors, je ne sais pas si vous commencez à voir là, tout ça. Là. Donc, on voit que ça se déploie, comme on a dit, progressivement, une mise en œuvre, une révélation, et ça se déploie sur la terre, dans le temps, parce que tous ces gens-là n'ont pas vécu à la même époque. Là. Abraham, après ça, il y a eu Isaac, Jacob, et après ça, ça va continuer avec Moïse, après ça, ça va être David. Et toutes ces choses-là pointaient vers la venue, l'accomplissement ultime de tout cela était la personne même de Christ. Quand il est venu sur la terre, il se trouvait à venir accomplir toutes les choses qu'on vient de mentionner. Et la phase finale de l'alliance de la grâce, c'est la nouvelle alliance qui est vraiment la phase finale de l'alliance de grâce. Jésus-Christ lui-même n'a-t-il pas affirmé que toutes les Écritures nous parlent de lui? Dans Luc 24, verset 27, dans la version Esterval, le Seigneur il est en train de parler avec les disciples d'Emmaüs qui viennent d'arriver de Jérusalem. Il s'est passé des choses à Jérusalem. Et là, il parle avec eux autres, puis là, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? On dit, coudonc, tu sors, toi, tu ne sais pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et c'était juste une façon d'entrer en relation, en conversation avec eux. Et regardez bien ce qu'il dit, à un moment donné. Là, il parle avec eux, il est sur la route d'Emmaüs, il parle avec ses disciples, et il leur dit, « Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait. » Alors, la doctrine... L'alliance qu'on appelle, on a une compréhension des Écritures qui est alliantielle. Donc, à quelque part, quand on reprend les trois bases, l'alliance de la rédemption, ce qui s'est passé au ciel, l'alliance que Dieu a pris avec Adam et Ève, et l'alliance de la grâce qui comprend d'autres sous-alliances jusqu'à la nouvelle alliance qui est la phase finale. Et là, je ne rentrerai pas dans les détails pour vous expliquer les différences entre la compréhension presbytérienne et la compréhension baptiste, mais on va le faire plus tard. Mais c'est juste pour que vous ayez comme une idée. Alors, on va regarder notre premier point, l'alliance divine avec Noé préfacée. C'est comme si Dieu... Tu sais, des fois, on écrit un livre, comme, disons, Pascal, il écrit un livre, et il va demander à quelqu'un, je sais pas moi, un docteur connu, « Tu pourrais-tu faire la préface? » Une préface, c'est comme une présentation. On veut présenter quelque chose, donc on fait une préface. Ici, Dieu fait une préface. Versets 1 à 7, il fait la préface à l'alliance avec Noé. Et qu'est-ce qu'il va dire dans cette préface-là? Il veut bénir, premièrement. Il sort de l'alliance. Il sort de l'arche. Noé fait un sacrifice. Le système sacrificiel, quand Dieu dit c'était d'agréable odeur à l'Éternel, pensez-vous que c'est parce que là, il y a un animal qui brûle, puis l'Éternel est là. Ça sent bon. C'est pas ça que ça veut dire. C'est sûr que ça fait une référence au sacrifice de Christ. Pourquoi Dieu a dit que c'était agréable? Parce que c'était comme une façon symbolique de parler du sacrifice de son fils, et que Noé prenait la bonne méthode pour s'approcher de Dieu, le sacrifice, avec la foi au futur Messie. Alors ici, le Seigneur veut bénir et établir clairement les nouvelles règles de vie. Toute la terre a été balayée, noyée, ils ont attendu combien de jours? 371 jours, et là, ils ont sorti, et là, Dieu, avant de les laisser aller sur la terre, veut prendre le temps de leur donner des nouvelles directives, des nouvelles règles de vie. Et ils deviennent, en quelque sorte, les nouveaux représentants de la race. Qui était le représentant de la race avant la chute? Adam et Ève. Et maintenant, c'est qui? Noé, sa femme et ses fils, qui sont les nouveaux représentants. Alors, il les a sauvés de la destruction Et les communications qu'il a avec eux maintenant ont été rendues nécessaires par la dévastation immense qui a été amenée par le déluge. En quelque sorte, Dieu va leur donner leur nouveau droit, leur nouveau privilège. Les droits et les privilèges ne sont pas toujours ensemble. Dans la société moderne aujourd'hui, on réclame souvent nos droits, mais nos responsabilités moins. Alors ici, Dieu vient établir la liste de leurs droits à la nouvelle humanité qui est en train de reprendre, et leurs privilèges, ainsi que leurs devoirs et responsabilités. Les deux vont toujours ensemble. Quand tu as des droits puis des privilèges, ça s'accompagne normalement de devoirs et de responsabilités. C'est en quelque sorte leur nouvelle constitution. Dans les manuels de commentaires anglais, il disait « It's the Magna Carta ». C'est comme la constitution civile, la constitution gouvernementale. Chaque pays a sa constitution, hein? Un document fondateur qui vient établir les grandes règles qui encadrent la vie politique, économique et sociale de tout ce monde-là. Alors, c'est en quelque sorte leur constitution. Alors, l'alliance divine avec Noé est préfacée d'une bénédiction d'Élohim. On le voit pas dans le texte parce qu'on n'a pas le texte original. Mais ici, la personne qui bénit Noé, c'est Elohim. Le nom, si vous allez voir dans n'importe quel interlinéaire hébreu français ou hébreu anglais, vous allez voir que le nom que Dieu utilise, quand ça dit dans le verset 9, est Dieu bénit Noé. Là, on peut se demander, c'est-tu Jéhovah ou c'est-tu Elohim? Pourquoi vous pensez que c'est Elohim? Parce que chaque fois que Dieu prend un nom différent pour parler de lui-même, dans ses relations avec soit ses créatures ou avec soit ses élus, il y a une raison. La raison pourquoi il utilise Elohim, on a vu que Elohim, c'est le nom du Dieu trinitaire dans ses rapports avec ses créatures. Donc, ici, les règles, les devoirs et tout cela, c'est pas uniquement pour ses élus, c'est pour toute l'humanité au complet. Donc, Elohim est en relation avec ses créatures, vient établir les nouvelles règles du jeu. Donc, l'alliance divine avec Noé est préfacée par Elohim. On pourrait dire que c'est la bénédiction des 8 P. J'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai trouvé 3-4, puis ça marche à tout. Fait que les 8 choses qui sont mentionnées dans la préface, ça commence toutes par P. Plus facile à retenir. Alors, remarquons que la bénédiction est exprimée de façon audible. Comment se faisait tant que Noé n'avait pas entendu Dieu parler de façon audible? Au moins 371 jours. Alors, ça faisait longtemps, là. Mais là, quand Dieu veut rétablir les nouvelles règles du jeu, il parle. Parce que ça dit, il dit. Alors, il fallait que ça l'implique que Noé ait compris ce qu'il a dit. Et Dieu bénit. Oui, le premier mot que Dieu vient dire à l'homme ou à l'humanité, ou à la nouvelle humanité, les représentants de l'humanité, premier mot qu'il dit, il bénit. C'est intéressant. Il bénit. Et là, il dit qu'est-ce qu'il leur dit. Alors, dans le verset 1, moi, je vois 3 P. On va les regarder, le premier P. Croissez et multipliez et remplissez la terre. Donc, croissez, c'était des hommes et des femmes. Donc, il y avait 4 hommes, 4 femmes. Le premier P, je le vois comme le P de la propagation. Dieu permet que ce soit par l'intermédiaire des hommes. On dit souvent, on procrée. Hein? Un couple se marie, a des enfants, donc il continue la race. Et les enfants, tes enfants vont avoir des enfants, ça continue. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon père était là avant moi, puis mon grand-père était là avant moi, puis mon arrière-grand-père était là en avant de moi, et on pourrait reculer comme ça jusqu'à Adam. Alors, le premier P que Dieu donne, qui est une bénédiction, c'est que cette perpétuation-là de la race jusqu'à l'arrivée du Messie va se faire par procréation humaine. Le deuxième, c'est celui de la propagation. Donc, quand il leur dit « multiplier », donc, ils ne peuvent pas dire, nous, tout ce qu'on va faire, c'est d'avoir du plaisir. Le plaisir est inclus, mais le but, c'est la multiplication. Pas l'addition, la multiplication. Donc, avoir plusieurs enfants et le but, c'est de se répandre. La troisième, c'est celui de la promulgation, c'est tout dans le verset 1, remplissez la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'homme se voit accorder la terre entière comme lieu d'habitation. Procréation, c'est vous autres qui va faire ça. Deuxième, propagation, faut que vous vous multipliez. Puis pas juste multiplier puis rester un petit peu dans les mêmes villes, un petit peu comme ils ont été tentés au début. Bâtissons Babel. Dieu n'a pas dit restez tous dans le même petit coin, restez ensemble. Remplissez la terre. À partir de 8, il était juste 8, là. Alors le but, le verset 1 parle de 3 P, la procréation, la propagation et la promulgation. Dans le verset 2, ça dit « Et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer, ils seront entre vos mains. » Qu'est-ce que Dieu vient accorder à l'homme dans le verset 2, le quatrième P? La protection. Autrement dit, tu es en train de leur dire, les animaux, avant, ils étaient gérés par l'amour. Ils étaient avec eux autres, puis ils n'avaient pas peur du lion, ils n'avaient pas peur de l'éléphant, ils n'avaient pas peur de qui que ce soit. D'aucun animal, c'était comme, ça allait bien, l'harmonie était régnée. Maintenant, Dieu dit que l'homme, maintenant, il va être craint des animaux. Les animaux vont avoir peur de vous autres. Et dans le fond, qu'est-ce que c'est de la part de Dieu? C'est une bénédiction. Ça les protège. Parce que les animaux auraient pu devenir, je ne sais pas. Alors, les rapports avec les animaux ont changé. Avant la chute, ils étaient régis par l'amour. Ils sont dorénavant régis par la peur, la crainte et l'effroi. Comme ça dit dans le texte. Souvent, l'Éternel va utiliser, enlever la peur aux animaux, et c'est un jugement. On a ça, par exemple, dans Ézéchiel, chapitre 14, au verset 21. « Voici donc ce que dit le Seigneur l'Éternel. Bien que j'envoie contre Jérusalem mes 4 jugements terribles. » Donc, il mentionne que Dieu se sert pour juger son peuple parfois de jugements qui sont terribles. Et il en mentionne 4. L'épée. Donc, quand Dieu permet des guerres, c'est des jugements. La famine. J'écoutais hier une émission sur la Californie. C'est épouvantable en Californie. Ils n'ont plus d'eau. Ils ont un problème d'eau énorme. Après ça, la troisième, c'est les bêtes nuisibles. Je ne sais pas si vous avez, dans votre lecture de l'Ancien Testament, si vous vous rappelez que parfois l'Éternel permettait que les bêtes nuisibles rentrent dans une ville ou dans un village. C'est des jugements. Alors, ici, le Seigneur protège, mais le Seigneur peut enlever la crainte aux animaux et ça devient un jugement. Et la quatrième, c'est la peste pour retrancher de ton sein, homme d'ébête. Cependant, on peut se réjouir parce que le Seigneur nous dit par prophétie qu'il va y avoir une personne qui va pouvoir rétablir l'ordre qui était là avant la chute. Et c'est Isaïe 9, une prophétie sur Christ, Isaïe 9, versets 6 à 9. Tellement beau comme image quand on lit ce passage-là. C'est poétique, mais c'est réel aussi. Et Ésaïe, chapitre 9, versets 6 à 9, « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. » Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant chevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Basilic, c'est un serpent. Autrement dit, vous voyez l'image, là, mais la paix qu'il y avait avant la chute est revenue. L'harmonie entre les êtres humains et les bêtes est revenue. Et dans le verset 9, ça dit, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Dans le verset 3, on a une autre bénédiction. On a parlé, on avait 8 P, on arrive au 5e P, la provision. Dieu fait en sorte que son peuple, les êtres humains, durant toute cette période-là, Dieu va leur fournir qu'est-ce qui est nécessaire à leur subsistance et au maintien de leur vie. Avant la chute, ils mangeaient quoi? Ils étaient végétariens. Maintenant, le Seigneur fait en sorte qu'ils deviennent carnivores. Voyez-vous, ça dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. C'est intéressant parce que quand on lit les commentateurs, ils disent, on peut se demander la question, pourquoi Dieu qui avait jugé que les fruits et légumes étaient la nourriture des hommes, et maintenant il dit, vous allez pouvoir tuer les animaux puis manger leur chair. Alors, les réponses que moi j'ai trouvées, il y en a peut-être plusieurs, mais la raison possible est que les fruits et légumes d'avant le déluge, là, faut vous dites, la terre entière a été recouverte d'eau, donc tout ça, ça n'avait plus probablement les mêmes qualités alimentaires. Alors, Dieu, alors que tout ça était très nutritif et probablement mieux adapté à leurs besoins corporels, mais la dévastation du déluge a changé les règles du jeu. Dans le verset 4, on a une autre bénédiction, mais qui s'exprime sous forme de prohibition. Ça dit, seulement, vous pourrez manger la chair des animaux, seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Le Seigneur est en train de nous expliquer un principe. L'âme est dans le sang. Pourquoi les Juifs, on dit que les Juifs sont presque maniaques de ne pas manger de sang, on appelle la viande si elle n'est pas cachère. Pour être cachère, il faut qu'elle soit vidée de son sang de façon complète, totale, ou pas qu'il y ait de sang dedans. Alors, c'est pour les Juifs, c'est vraiment une compréhension qu'on ne doit pas manger de sang sous aucune forme, parce que l'âme est dans le sang. Alors, la sixième bénédiction, c'est une prohibition. Le Seigneur veut rappeler à Noé que le droit de vie ou de mort, c'est une prérogative exclusivement divine. Le Seigneur est Seigneur des créatures, mais seul Dieu est Seigneur des âmes. Autrement dit, puisque l'âme... Tu sais, quand on regarde des fois des films où on voit les... qui s'appelle Dracula, qui boit du sang. L'idée, c'est fort probablement que l'âme est dans le sang et veut se nourrir de l'âme de l'autre, et l'âme d'une créature déchue, bien, c'est pécheur et c'est rempli de péché. Est-ce que l'idée vient de là? Fort probablement. Alors, les Écritures nous parlent du sang comme étant le siège de l'âme et l'âme elle-même. La preuve... Si vous allez dans Lévitique, chapitre 17, les versets 11 et 14. Dans le verset 11, ça se dit, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. » Et dans le verset 14, « Car quant à l'âme de toute chair, c'est son sang. Il lui tient lieu d'âme. » C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est dans son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, Lévitique 17, versets 11 et 14. Donc, on était rendu au 6e P, les versets 5 et 6. On a la proclamation, c'est une autre bénédiction, la proclamation de choses importantes. Il dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, la septième P, qui est une bénédiction, Dieu est en train de dire à l'homme l'importance de la vie humaine, que l'homme ne peut pas s'arroger un droit qui appartient à lui tout seul. Alors, il y a deux aspects dans cette proclamation-là. Il y a un aspect positif et un aspect négatif. On va commencer par le négatif. L'homme ne dispose pas du droit de vie ou de mort, ni sur lui-même, ni sur les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de te suicider, puis ça veut dire que tu n'as pas le droit de tuer un autre être humain. Parce que, il donne les raisons plus tard, on va les voir. Donc, les suicides et les homicides sont de très graves péchés aux yeux de Dieu. On va nommer quelques péchés qui aujourd'hui courent les rues. L'avortement. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas tuer un être humain? Même si on s'évertue à vouloir dire qu'un fœtus, ce n'est pas un être humain, c'est un être humain. Alors, l'avortement, l'euthanasie, les personnes qui pensent qu'ils ont le droit de s'enlever la vie à cause qu'ils souffrent, et le suicide assisté, on le sait, c'est de plus en plus à la mode, on en parle, on n'arrête pas d'en parler. Alors, si un médecin participe à ça, dans le fond, il est en train de manquer à ce que Dieu dit ici. Tu n'as pas le droit d'enlever ni ta vie, ni celle des autres. Alors, et les suicides assistés ne sont pas permis par les Saintes Écritures. Maintenant, l'aspect positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans les versets 6? Bien, c'est surtout que l'homme, avec ses magistrats gouvernementaux, la seule institution divine qui a le droit d'enlever la vie à un homme parce qu'il l'a tué, c'est les magistrats. Autrement dit, ceux qui ont été nommés par un gouvernement. Le gouvernement, ici, une chose qui est intéressante à remarquer, c'est que c'est pas Dieu ne laisse pas, autrement dit, le choix à l'homme, dans son aspect gouvernemental, d'enlever la vie à un tueur ou de ne pas l'enlever. C'est un impératif. Il doit le faire. La peine de mort, c'est quelque chose qui est biblique, parce que les versets ici sont clairs. Si un homme enlève la vie à un autre homme, que ce soit son enfant, sa mère, son père, son frère, sa sœur, ou qui que ce soit, le gouvernement, à l'aide de ses magistrats, se doit de le juger et de lui enlever la vie, et ça ne les rend pas coupables parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Alors, l'expression « je redemanderai le sang de vos âmes », c'est intéressant, ça veut vraiment véhiculer l'idée que Dieu recherchera le coupable de ce crime en vue de le punir. Autrement dit, il y a vraiment l'idée, en anglais c'est « seek after ». Si un homme tue un autre homme, Dieu va le rechercher pour en vue de le punir. Il y a un verset intéressant dans 2 Chroniques, chapitre 24, et versets 18 à 25. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les emblèmes d'Achéra et les idoles. Et la colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux pour les faire retourner à lui des prophètes qui témoignèrent contre eux, mais ils ne voulurent point les écouter. Alors l'Esprit de Dieu revêtit Zacharie, fils de Jéhojada, le sacrificateur, et se tenant debout au-dessus du peuple, il leur dit, « Dieu a dit ainsi, « Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Remarquez bien le verset 21. Verset 21. « Mais ils conspirèrent contre lui et l'assommèrent de pierres. » Autrement dit, ils vivaient dans le péché jusqu'aux oreilles. Il y a un prophète qui est venu, qui les a avertis. Et ils ont tellement détesté de se faire avertir qu'ils l'ont tué par lapidation. Alors ça dit, « Mais ils conspirèrent contre lui et l'assommèrent de pierres par le commandement du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. » Remarquez bien le verset 22 aussi. Ainsi, le roi Joas ne se souvint point de la bonté dont Jéhojada, père de Zacharie, avait usé envers lui, et il tua son fils, qui dit en mourant, L'Éternel le voit et il en redemandera compte. Regardez bien ce qui arrive après, verset 23. Et il arriva quand l'année fut révolue, que l'armée de Syrie monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Or, les Syriens détruisirent d'entre le peuple tous les principaux du peuple, et ils envoyèrent au roi à Damas tout leur butin. Bien que ce fût avec un petit nombre d'hommes qu'arriva l'armée de Syrie, l'Éternel livra entre leurs mains une très nombreuse armée. Un paquet d'hommes qui meurt par une petite poignée qui normalement n'aurait pas été capable de conquérir, Dieu permet que sont en petit nombre, mais ils vont quand même être capables de battre une grande armée. Et qu'est-ce que l'Éternel fait avec ça? Il vient juger. Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, ainsi les Syriens firent justice de Joas. Regardez le verset 25 pour illustrer ce qu'on est en train de dire. Et quand ils se furent éloignés de lui, après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils de Jéhojada, le sacrificateur. On voit le principe s'appliquer. Dieu permet qu'il ait enlevé la vie, qu'il se la fasse enlever par un autre. Et le Seigneur mentionne deux raisons pourquoi l'homme ne doit pas verser le sang de l'homme dans ce verset-là. Premièrement, parce qu'il dit dans le verset 5, parce que l'homme est son frère, faisant partie intégrante de la race humaine qui est une création divine. Il y a une vérité quand quelqu'un, un autre être humain, vient te dire « Je suis ton frère », c'est vrai jusqu'à un certain point. C'est vrai dans le sens qu'il fait partie de la création divine, donc en ce sens-là, il est ton frère, parce que ici, c'est Elohim qui parle, et il parle des autres comme étant ton frère. Donc, tu fais partie de ce qu'on pourrait appeler la grande fraternité humaine, mais tu n'es pas un frère dans le sens spirituel du mot. Alors, parfois, les mots, il faut prendre le temps de les préciser. Dans le verset 6, on donne la deuxième raison pourquoi Dieu ne permet pas aux hommes de tuer. Et ça dit, parce que Dieu a fait l'homme à son image. Et là, il faut se reposer la question, qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il a créé l'homme à son image? Ben moi, j'ai fait une petite recherche. Il y a plusieurs choses, on pourrait élaborer beaucoup là-dessus. D'abord, il a fait l'homme avec une nature intellectuelle. L'homme a un esprit. Il a une nature morale, capable de juger le bien et le mal. Il a une nature spirituelle. Quand il va décéder, ou il va aller en enfer, mais sa vie va continuer, ou il va aller au ciel. Dans ce sens-là, et il y a une vie qui est perpétuelle, dans le sens que même après son décès physique du corps, il va quand même y avoir une vie qui va continuer. Et dans le fond, l'homme participe à la gloire de Dieu dans un certain sens, parce que quand les Écritures nous disent « tout reflète la gloire de Dieu », alors l'être humain, c'est sûr qu'à cause du péché, il a dénaturé sa nature, il l'a corrompu, il l'a tout ce que vous voulez, mais il reste encore toutes ces choses-là en lui qui peuvent être très souillées, très salies, mais cette partie-là de sa nature demeure quand même en lui. Donc, le septième, c'était vraiment la prohibition, pas la prohibition, mais c'était la proclamation que la vie, l'homme ne peut pas l'enlever, que s'il l'enlève, le gouvernement, avec ses magistrats, ils ont le choix. Là, ça s'en vient de plus en plus comme ça dans la société, il y a de plus en plus de protestations, les gens disent, ah ben, on n'est pas pour faire la même chose que lui enlever la vie à un autre. C'est pas ça que la Bible dit. Où on croit ces Écritures? Si on croit les Écritures, quand le gouvernement d'un pays enlève la vie à un criminel, à un meurtrier, ils sont non seulement en droit de le faire, mais c'est leur devoir, c'est impératif. Ils se doivent de le faire. Sinon, ça va être eux-mêmes qui vont être impliqués dans une forme de jugement ou un autre. Et la huitième P, on est rendu au verset 7, il leur dit, il termine en disant, « Vous croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multiplier sur elle. Donc, là, vraiment, le dernier verset, c'est vraiment la prolifération. Dieu veut que les gens croissent, se multiplient et sur la terre. Donc, la prolifération. Autrement dit, on va voir un petit peu plus tard que les êtres humains vont vouloir s'établir, bâtissons Babel. Ils vont vouloir rester ensemble. Et ça, c'est une désobéissance vraiment ouverte contre Dieu lui-même, parce que Dieu a dit que vous devez vous multiplier et vous répandre sur la terre, pas vous concentrer à la même place, vous bâtir des villes. Alors vraiment, la prolifération fait partie. Et je pense qu'on va arrêter là, parce que je suis rendu, j'ai juste le premier point de fait, et on va arrêter là, et on continuera la semaine prochaine pour finir le deuxième point, l'alliance divine de Noé qui va être précisée, et l'alliance divine de Noé qui va être préservée avec tout comment Dieu indique ces choses dans les Écritures. Alors, notre Dieu, merci encore une fois pour nous avoir montré toutes les bénédictions qu'il y a à l'intérieur de ce chapitre. Et Seigneur, on veut te demander de bénir tout cela dans nos cœurs, de permettre qu'on comprenne ce qu'on a étudié, qu'on accepte ta parole et qu'on comprenne mieux toutes les choses qui sont mentionnées dans cette préface à cette alliance que tu vas établir avec Noé. Alors, on te demande de bénir notre compréhension, de permettre qu'on trouve des principes à obéir et à appliquer dans nos vies. On te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.